France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une enseignante frappée à coups de couteau par l'un de ses élèves à Sanary-sur-Mer dans le Var. Son pronostic vital est engagé. À ce stade, la justice exclut toute connotation religieuse ou politique. L'adolescent a été arrêté. Un procès en appel mal engagé pour Marine Le Pen. Les avocats généraux comptent à nouveau demander l'inéligibilité de la patronne des députés RN, ce qui pourrait l'empêcher définitivement de se présenter à l'Élysée l'an prochain. L'Ukraine, à nouveau sous les bombes russes, la trêve des frappes négociées par Donald Trump a volé en éclats la nuit dernière. La Russie pilonne le territoire ukrainien avant la reprise des négociations demain. Le Venezuela, un mois tout juste après la capture de Nicolas Maduro, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a lancé les premières réformes réclamées par les États-Unis. Une professeure d'art plastique est entre la vie et la mort ce soir dans le Var. Cette femme de 60 ans a été poignardée par l'un de ses élèves au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer. L'adolescent a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, se rend sur place. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas Vazak.
Que sait-on des circonstances de cette agression, Hakim ?
Eh bien, les faits ont eu lieu en classe, en début d'après-midi, dans ce collège sans histoire qui n'est pas classé en réseau d'éducation prioritaire. Alors si pour l'instant la justice indique qu'il n'y a pas de connotation politique ou bien religieuse, le procureur de la République de Toulon, Raphaël Ballan, a indiqué qu'il y a eu au moins 3 incidents entre la professeure d'art plastique et ce collégien.
14h et des poussières, ils sont en salle de classe, il y a 22 enfants dans la classe. L'enfant, à un moment donné, donne ses coups de couteau à cette professeure, entre 3 et 4 coups de couteau. Elle est blessée au torse à 3 reprises. Et donc, il s'enfuit de la classe. Il est appréhendé par un personnel dans la cour. Il se laisse faire sans difficulté. On sait seulement qu'il y avait eu des tensions avec cette professeure ces derniers temps et qu'il lui en voulait d'avoir fait des rapports à son encontre. Mais tout ça, c'est des a priori que nous devons vérifier.
Cette nouvelle attaque contre un enseignant pose de nouveau la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Car si François Bayrou avait promis des portiques de sécurité après la mort d'un assistant d'éducation en juin dernier, très peu ont été installés car ils sont très coûteux, d'autant que les personnels de l'éducation nationale ne sont pas habilités à fouiller les sacs des élèves, rappelle Jérôme Fournier, co-secrétaire national du SEUNSA.
Aucun personnel de l'éducation nationale ne peut fouiller les sacs. On peut faire des contrôles visuels, mais ça suffit pas. Et on peut pas aller au-delà. Et on peut pas mobiliser, on voit bien, la gendarmerie et la police tous les jours devant tous les collèges et les lycées de France pour faire des fouilles. Donc ça peut être une solution pour faire peur aux élèves et éviter que après une fouille de fouilles, ils ne viennent avec des couteaux. Mais ça résoudra pas le problème complètement parce qu'on ne peut pas le généraliser.
De son côté, le préfet du Var a indiqué que les 269 fouilles réalisées dans les établissements de l'Académie de Nice ces dernières semaines ont permis de récupérer 16 armes blanches. Quant aux élèves du collège La Guicharde, ils seront reçus demain dans le collège pour pouvoir parler avec des enseignants ou bien échanger avec des psychologues, mais les cours seront suspendus.
Hakim Kasmi, merci. Emmanuel Macron est tenu informé de l'état de santé de l'enseignante, a fait savoir l'entourage du président. Le chef de l'État qui est en déplacement à Vesoul en Haute-Saône. Deuxième semaine dans le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, décapité par un islamiste tchétchène le 16 octobre 2020. Dans le box des accusés de la Cour d'assises spéciale de Paris, 4 hommes qui contestent leur condamnation en première instance. Parmi eux, le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui. Il avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. La Cour a entendu aujourd'hui les proches du professeur assassiné, mais aussi ses anciens collègues. On retrouve Florence Turme au Palais de Justice de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Florence, la défense du prédicateur a utilisé cette audition des anciens collègues pour relancer le débat sur une prétendue discrimination des élèves musulmans.
Samuel Paty, c'était quel genre d'homme ? Affable, discret, cultivé, répond son ancien collègue, le prof de maths qui jouait parfois aux échecs avec lui, mais qui s'est tenu résolument en retrait au moment où est née la polémique et en même temps le clivage entre enseignants au collège du Bois d'Aulne. Malveillant avec les élèves, questionne encore Virginie Leroy, l'avocate de la famille Paty, absolument pas, très précautionneux. Raciste ? Non. Islamophobe, non. La partie civile anticipe déjà la rafale de questions annoncée quelques instants plus tard par la défense d'Abdelhakim Sefrioui. Depuis le début de ce procès, l'un de ses quatre avocats, Francis Villemain, attaque sur les plateaux télé et dans la salle des pas perdus le contenu du cours de Samuel Paty, un cours qui était en ligne depuis 4 ans, précise l'avocate générale, sans que les parents, les enseignants, la direction ne se soient manifestés. Samuel Paty n'était ni raciste ni islamophobe, lance Francis Villemain. Je ne suis pas là pour l'assassiner une seconde fois, mais pour montrer la bonne foi de mon client. L'avocat avait promis de distiller tout au long de l'audience une quinzaine de témoignages d'anciens élèves. Il en brandit 2. Il a demandé aux musulmans de lever la main et de sortir. La partie civile s'insurge contre des extraits tronqués. Dans cette audition, précise la présidente, le même élève explique qu'il était gentil, il a fait attention à nous, il n'a pas cherché à discriminer qui que ce soit. Il n'aurait pas été intéressant de varier les plaisirs, reprend Francis Villemain, de montrer des caricatures du Christ ou de Moïse. Les échanges se tendent à l'image de certains débats médiatiques organisés à l'extérieur. Nouveau rappel à l'ordre de la présidente de la Cour, ce qui se passe en dehors de ce prétoire n'intéresse pas la Cour.
Florence Thur, merci. Le verdict est attendu le 27 février prochain. Le palais de justice de Paris, où se tient aussi un procès en appel d'une toute autre nature, celui de l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Journée cruciale pour Marine Le Pen avec les réquisitions attendues contre la chef de file du RN, qui espère voir tomber l'inéligibilité qui l'empêche pour l'instant de se présenter à la prochaine présidentielle. Les deux avocats généraux s'attachent pour le moment à démontrer la culpabilité de Marine Le Pen et des autres prévenus pour détournement de fonds publics. Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Les magistrats ont d'emblée annoncé qu'ils allaient demander des peines d'inéligibilité.
Oui, c'est l'avocat général Thierry Rameau-Tsanneau qui démarre. Même s'il salue des débats plus sereins qu'en première instance, l'affaire n'est pas banale. Nous faisons face à une atteinte très grave à la probité via un détournement de fonds publics. Des économies substantielles ont été faites sur le dos du Parlement européen, rappelle-t-il. Son confrère Stéphane Mados-Blanchet ajoute « Les faits de détournement de fonds publics ont été volontairement et soigneusement dissimulés. Il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre que des fonds publics destinés à rémunérer un assistant parlementaires ne sont pas destinés à financer le développement d'un parti. Ne vous laissez pas abuser par les différents rideaux dressés par la défense, lance-t-il à la présidente. Et pas besoin, selon lui, d'aller faire l'exégèse de la réglementation européenne. La question est simple. Les emplois déclarés correspondaient-ils aux emplois réellement exercés par les assistants parlementaires? Et ça n'est évidemment pas le cas, détaille-t-il en long, en large et en travers. On en vient ensuite à la description du système. Un système mis en place par Jean-Marie Le Pen de façon un peu artisanale, trace le parquet général, puis qui s'est généralisé avec Marine Le Pen. Les députés n'avaient pas leur mot à dire. On ne discute jamais de travail, mais toujours d'argent, décrit-il. Nous sommes assurément dans l'instrumentalisation de crédits publics au profit d'un parti politique. Actuellement, la responsabilité pénale des prévenus est en train d'être reconnue. Marine Le Pen et le RN sont considérés, je cite, comme la tête du système, mais on n'a pas encore, à ce stade, le détail des peines demandées.
Anne Fauquemberg depuis le Palais de Justice de Paris avec Eric Audra pour les moyens techniques. À moins de 6 semaines du premier tour des élections municipales, le 15 mars, nous poursuivons notre tour d'horizon des enjeux du scrutin pour les principales formations politiques. On s'intéresse ce soir aux écologistes. En 2020, ils avaient conquis plusieurs grandes villes à la faveur d'une vague verte historique. Lyon, Bordeaux, Strasbourg, mais aussi Besançon, Tours, Poitiers ou Annecy. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
6 ans après, le contexte politique a changé et ces élections municipales s'annoncent compliquées.
Oui, en 6 ans, beaucoup de choses ont changé. En 2020, la préservation de l'environnement était un thème électoralement porteur. Par ailleurs, la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19 a eu un effet démobilisateur sur les élections municipales. Au premier tour, qui s'est déroulé le 15 mars, juste avant le premier confinement, comme au second tour, qui s'est tenu juste après le 28 juin. 70% des électeurs ne sont pas allés voter et ce sont notamment les personnes âgées, craignant le virus, qui ne se sont pas déplacés. Dans ces conditions, les candidats écologistes, dont l'électorat se trouve essentiellement chez les jeunes, ont été favorisés. Aujourd'hui, plus de pandémie, le poids des jeunes s'en trouvera amoindri. On sait par ailleurs qu'ils ont tendance à moins se mobiliser et les thématiques environnementales semblent être reléguées au second plan des préoccupations derrière la sécurité, le logement ou encore l'accès à la santé. Par ailleurs, un certain nombre de maires écologistes élus en 2020 sont perçus comme étant beaucoup trop dogmatiques, peu enclins au compromis. C'est la raison pour laquelle, dans plusieurs villes, ils se retrouvent en difficulté difficulté et ne sont pas sûrs d'être réélus.
Et c'est notamment le cas à Lyon et à Strasbourg, Stéphane.
Oui, à Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet fait face à la candidature de Jean-Michel Aulas, ancien président du club de foot l'Olympique Lyonnais. Et les premières enquêtes d'opinion placent l'écologiste loin derrière dans les intentions de vote. Même chose pour la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, en difficulté face à l'ancienne maire socialiste de la ville et ancienne ministre de la Culture, Catherine Trottmann. Les écologistes pourraient également perdre Annecy, où le maire sortant, François Astorg, ne se représente pas. Et puis c'est loin d'être gagné pour Léonore Monconduit à Poitiers et pour Anne Vigneault à Besançon. Il y a 6 ans, en 2020, les écologistes avaient conquis 36 villes dans toute la France. La plus grande étant Lyon, plus de 500 000 habitants. Et la plus petite, Montain, dans le Jura, une commune de 517 habitants. Ce succès électoral leur avait permis de reconstituer un groupe au Sénat, qui en cas de défaite cette année pourrait à nouveau disparaître. Par ailleurs, un mauvais résultat au municipal constituerait un handicap pour la chef de file des écologistes Marine Tondelier, qui prépare plus que jamais une candidature à l'élection présidentielle l'année prochaine.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Les écologistes secoués ces derniers jours par une tribune parue dans Mediapart. Une trentaine d'entre eux critiquaient la stratégie de leur chef Marine Tondelier pour ces élections municipales. Marine Tondelier accusée de privilégier l'alliance avec les socialistes. Eh bien, la direction du parti a décidé de suspendre ces écologistes jusqu'au deuxième tour du scrutin le 22 mars. Certains des signataires ont rejoint des listes de la France insoumise, notamment à Paris, Montpellier, Avignon, Nantes et Toulouse. Dans l'actualité sociale, la colère sociale ne faiblit pas chez Ubisoft, le géant français des jeux vidéo. Une trentaine de salariés du site de Montreuil, près de Paris, ont à nouveau débrayé aujourd'hui, le temps de la visite du PDG Yves Guillemot, présent dans les locaux pour tester un nouveau jeu. Un an après la grève générale dans le secteur du jeu vidéo, les revendications n'ont pas changé chez Ubisoft. Bonsoir Cyril Ardaud.
Bonsoir.
Les salariés et syndicats que vous avez rencontrés à Montreuil dénoncent les licenciements et réclame de meilleures conditions de travail.
L'une des raisons de cette mobilisation, c'est le projet de la direction de revenir à 5 jours de présentiel par semaine. Chakib Mataoui est délégué syndical solidaire informatique.
Quand on ne donne pas de justification, ni chiffrée, ni des preuves à l'appui que le télétravail n'a pas fonctionné, on comprend tout de suite que le but, c'est de pourrir la vie des gens qui sont en télétravail, c'est de supprimer des postes via cette mesure, de dire aux personnes qui sont loin et qui aussi parfois sont seniors et ont de bons salaires, qu'en fait on n'a plus besoin de vous, vous allez être remplacés par des juniors ou de l'IA.
Selon les syndicats, plusieurs salariés ont eu, après le Covid-19, l'autorisation d'être en télétravail la majeure partie du temps et ont donc déménagé à l'autre bout de la France. Alors le retour au présentiel est très mal accepté, selon cette salariée qui préfère garder l'anonymat.
On vit dans une peur constante, en fait. On nous a annoncé ça dans un mail. Tout le monde est même limite sidéré, en fait. Même ça concerne autant les gens qui sont loin que les personnes neuroatypiques, les aidants. Beaucoup de gens qui ont besoin du télétravail, en fait. Mais oui, l'ambiance est de moins en moins bonne. On sent de plus en plus les coupes de budget.
Car l'entreprise ne se porte pas bien, le groupe anticipe 1 milliard d'euros de pertes cette année, veut faire 200 millions d'euros d'économies et se séparer de 200 salariés du siège francilien. Un plan qui s'ajoute aux 300 millions d'euros de coupes depuis 2023. Conséquence d'un manque de stratégie selon Vincent Cambedouzou, délégué syndical du STJV.
Pour amener de l'argent, il faut faire des bons jeux. Les équipes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo française et a fortiori chez Ubisoft savent faire des bons jeux. Le problème, c'est que pour ça, il va falloir commencer à écouter les gens dont c'est le métier et arrêter de faire des plans sur la comète complètement aléatoires comme c'est le cas en ce moment.
Enfin, dernière décision mal, voire incomprise par beaucoup de salariés, l'arrêt fin janvier du développement de 6 jeux dont Prince of Persia, Les Sables du Temps, grand succès d'Ubisoft dans les années 2000 et dont cette nouvelle version était très attendue par les fans.
Cyril Ardaud, merci. Une nouvelle grève est prévue du 10 au 12 février chez Ubisoft. Elle ne concernera cette fois pas uniquement le studio parisien, mais tous les sites français. Français du géant du jeu vidéo. La marque française de prêt-à-porter Balibaris, placée en redressement judiciaire, l'entreprise positionnée sur le haut de gamme, avec des collections fabriquées en Europe, est en cessation de paiement depuis le 24 décembre. Balibaris exploite 57 points de vente en France avec près de 200 salariés. La procédure judiciaire doit lui permettre de restructurer une dette devenue trop lourde. Et puis à l'instant, on apprend le placement en redressement judiciaire d'une autre marque de prêt-à-porter, Okaidi spécialisé dans le prêt-à-porter pour enfants. Donald Trump s'était vanté la semaine dernière d'avoir obtenu de Vladimir Poutine une trêve dans les frappes russes sur l'Ukraine. Le répit n'aura pas duré bien longtemps. La Russie a lancé la nuit dernière sa plus puissante attaque depuis le début de l'année, selon Kiev. 71 missiles et 450 drones. Résultat, des centaines de milliers de familles privées de chauffage, d'après le gouvernement ukrainien, alors que le thermomètre est descendu sous les moins 20 degrés. Virginie Pironon, cette attaque massive intervient à la veille de la reprise des négociations à Abu Dhabi.
Oui, initialement prévu dimanche, une deuxième session de pourparlers entre Kiev, Moscou et Washington doit reprendre demain aux Émirats Arabes Unis et durer jusqu'à jeudi. Mais profiter des journées d'hiver les plus froides pour terroriser la population est plus important pour la Russie que de choisir la diplomatie, a réagi Volodymyr Zelensky. La température à Kiev avoisine les moins 20 degrés. C'est dans ce contexte, alors qu'une alerte aérienne retentissait une nouvelle fois dans le ciel de la capitale ukrainienne ce matin, que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est arrivé sur place. Et pour lui, les événements de ces dernières heures sont un bien mauvais signal de la part de Vladimir Poutine. Il s'est exprimé devant la Rada, le Parlement ukrainien.
Des discussions directes sont désormais en cours et c'est un progrès important. Mais les attaques russes, comme celles de la nuit dernière, ne témoignent pas d'un réel sérieux envers la paix.
Selon des spécialistes cités par la presse ukrainienne, la retenue du Kremlin, qui a affirmé avoir accepté une demande de Donald Trump de s'abstenir de frapper Kiev et le réseau énergétique ukrainien jusqu'au 1er février, a été appliquée pour plaire à Washington, pas pour mettre fin à la guerre. Vladimir Poutine, selon eux, ne fait que gagner du temps. Il essaie d'apaiser Donald Trump, disent-ils, pour mieux le convaincre qu'en cas d'échec des négociations, ce ne sera pas de sa faute.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. C'était il y a tout juste un mois la capture de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines. La vie a repris au Venezuela, privé de son président, incarcéré aux États-Unis pour trafic de drogue. La présidente par intérim Delcy Rodriguez fait mine de défendre la révolution bolivarienne face à Donald Trump. En réalité, Nathanaël Charbonnier, elle s'emploie surtout à mettre en place les mesures réclamées par Washington.
C'est connu, la nature a horreur du vide et dans le cas du Venezuela, cela se vérifie à nouveau. La présidente par intérim a commencé à s'installer dans le siège laissé vacant par Maduro. Elle a changé ses ministres à l'exception de ceux de la Défense et de l'Intérieur tenus par deux personnalités incontournables dans le pays. Elle a aussi fermé l'une des prisons symboles de la torture de Maduro, la prison d'Helicoïde, et prononcé une amnistie pour plusieurs centaines de prisonniers politiques. Mais le geste le plus fort qui montre que le Venezuela change, c'est le fait que le pays ait approuvé à grande vitesse une réforme de sa loi pétrolière, loi qui ouvre au privé et donc aux États-Unis le secteur. Autant de concessions qui s'accompagnent par la levée partielle des sanctions américaines contre le Venezuela, une levée partielle des sanctions qui redonne un peu d'oxygène au régime et à la population. S'ajoute que la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a compris que pour rester au pouvoir, elle devait aussi donner des gages au soutien de l'ancien président. C'est ainsi qu'ils sont autorisés, par exemple, à manifester avec des marches quotidiennes pour condamner l'enlèvement de leur ancien président.
Nathanaël Charbonnier. C'est un volet parfois négligé de l'affaire Jeffrey Epstein. Qu'en est-il des victimes du financier criminel? Eh bien, les noms de beaucoup d'entre elles ont été dévoilés par erreur dans la masse de documents publiés vendredi dernier par le ministère américain de la Justice. L'administration Trump s'était pourtant engagée à protéger les victimes. Des avocats ont lancé une action en justice pour obtenir la fermeture de l'accès au site où sont publiés les documents. Franck Madvon nous appelle de Washington.
Plus d'une quarantaine de noms dévoilés, certains cités plus de 100 fois, des photos de filles dénudées. Pour les avocats des victimes de l'affaire Epstein, non, le gouvernement n'a pas fait son travail en laissant passer des informations aussi confidentielles dans les millions de pages publiées vendredi dernier. Le ministère de la Justice s'était pourtant engagé à protéger les victimes. C'est la principale raison invoquée pour justifier la publication tardive des documents qui devaient normalement sortir en décembre. Les avocats avaient même transmis aux autorités 350 noms pour s'assurer que les identités reste cachée. Certains cas sont particulièrement frappants, par exemple une liste de victimes datant de 2016 et un seul nom noirci sur le document. Il est parfois possible d'identifier des adresses, des numéros de téléphone. Les avocats se tournent donc vers la justice pour demander la fermeture du site gouvernemental où sont publiés les fichiers. Un recours a été déposé à New York. Ils parlent dans leur lettre de la violation la plus flagrante de la vie privée des victimes en une seule journée dans l'histoire des États-Unis. Le préjudice est en cours lourd et irréversible, écrivent-ils. L'affaire sera examinée demain. Le juge a déjà répondu aux avocats. Je comprends votre inquiétude et l'urgence de la situation.
Au Royaume-Uni, l'affaire Epstein éclabousse une personnalité majeure du parti travailliste au pouvoir à Londres, Peter Mandelson. Il avait déjà dû renoncer à son poste d'ambassadeur britannique à Washington après les nouveaux documents publiés ce week-end qui montrent sa proximité avec le criminel sexuel. Le Peter Mandelson annonce aujourd'hui qu'il va quitter son siège à la Chambre des Lords. La météo demain, ciel gris et pluvieux au sud, sur l'Aquitaine et sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs, un temps plus sec et souvent ensoleillé. Mais une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne dans l'après-midi. Les températures minimales sont en baisse, entre 0 et 9 degrés en général. L'après-midi, la douceur revient, entre 9 et 15 degrés en général. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Ludovic Auger.